c'est Yanis de la Loire. Je suis conducteur accompagnateur de personnes handicapées. Et ce matin, je suis avec Enzo, un de mes passagers. On voulait vous souhaiter une bonne journée. Voilà. Et puis, moi, je tenais à vous remercier particulièrement pour toutes vos émissions qui m'ont apporté pas mal de choses. Voilà. Bonne continuation. Encore merci.
Bonjour les AMG. Pour une indépendance plus forte de l'Europe, la Constitution européenne a prévu une augmentation budgétaire. Mais il y a un os qui passe pas. Berlusconi rêvait d'une plus grande base militaire états-unienne en Italie et Romano Prodi l'a réalisé. En effet, l'Italie aura la plus grande base militaire états-unienne au monde. Il n'y a pas que Tony Blair qui laisse les bottes à Bush.
Oui, bonjour, c'est Michel de la Somme. On est vendredi, je viens d'écouter le flash de 11h et je suis complètement perdu parce qu'il n'a pas été une seule fois question de Nicolas Sarkozy. Mais que se passe-t-il sur France Inter? Allez, salut.
Salut, c'est Yano, le routier. Ça s'arrange pas, hein. France Inter, 7h, 7h15, 7h30, 8h moins le quart, de la pub. C'est assez hallucinant, je dois dire. Mais encore un petit effort et on va pas tarder à friser RTL. Allez, bonne bourre.
Moi, c'est au sujet des auditeurs qui se plaignent de la pub sur France Inter, chaîne publique. Moi, je voudrais faire un parallèle avec une émission récente sur l'évolution du journal Libération, en fait. Parce que quand j'entends cette pub pour une banque qui ridiculise un petit peu des gens qui prônent paix, amour, et les fait passer un comble pour des beaufs, en quelque sorte, je sais pas pourquoi je pense à Serge Julie. Voilà. Une autre remarque, c'est quand j'entends le battage médiatique fait sur France Inter pour vendre la daube musicale de Carla Bruni, qui a 3 ans, je crois, dans une fulgurance a trouvé 2 accords de guitare et nous les ressort aujourd'hui. Là, c'est pareil. Enfin, bon, ça, c'est une remarque personnelle parce que bon, je dis de la daube, c'est peut-être pas de la daube, ça peut être de la soupe ou de la guimauve. Hein. Chacun choisit. Allez, courage à tous pour les mois à venir. C'était Alain de Guéret dans la Creuse.
Je suis Michel de Paris et je voudrais laisser un message à propos d'une petite fille de 10 ans qui est aujourd'hui déclarée en mort clinique dans un hôpital israélien. Cette petite fille a le malheur d'être palestinienne et de s'être fait tirer dessus par un membre d'un escadron d'un groupe qui s'appelle Magav. Or, ces escadrons des gardes frontières israéliens, parce que Magav, ça veut dire la garde de la frontière, vont être reçus et honorés à Paris le 21 janvier au Bataclan. Toutes les organisations des droits de l'homme israéliennes ont recensé et porté de très nombreuses plaintes contre Magav. Des plaintes pour meurtre de civils désarmés et non recherchés, pour des humiliations, des coups et blessures, des usages abusifs de la violence, la torture sur les barrages et sur les routes, dans les villages des territoires occupés et en Israël même. On ne compte plus les actions illégales de ces escadrons, ni les plaintes déposées contre eux. Il y a même aujourd'hui des plaintes pour que cet escadron, ce groupe, soit démantelé. Est-ce que Magav doit être accepté sur le territoire français malgré toutes les normes et les conventions internationales signées par la France, malgré le droit humanitaire? Peut-on impunément faire son apologie au centre de Paris? Que ce soit dans le domaine public ou dans le domaine privé, la loi doit s'appliquer à tous en France. Il nous appartient de poser la question. Il vous appartient de vérifier et d'exiger des pouvoirs publics la plus grande vigilance sur l'accueil en France d'éventuels responsables de crimes et d'interdire l'apologie de ces crimes. Si vous voulez des informations sur Magav, vérifiez les sites des ONG israéliennes des droits de l'homme de Betselem, betselem.org.il et acri.org.il. Nous serons devant le Bataclan à 19h le 21 janvier. Soyez-y avec nous, pour la justice et pour le droit. Au revoir.
Voilà, merci pour ces messages, quelques-uns, parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse édition au 01 56 40 37 37. Aujourd'hui, on est toujours au Square Joubert, à Bourg-en-Bresse. Et qu'est-ce qui se passe au Square Joubert, à Bourg-en-Bresse? Il y a une association d'hébergement, un foyer qui veut pas se laisser asphyxier, qui veut pas disparaître. On était avec eux hier, et ils manifestent, et ils se manifestent, pas seulement les éducateurs et les travailleurs sociaux de ce foyer, qui travaillent dans ce foyer d'accueil, mais mais aussi eh bien, les résidents, ou bien ceux qui y ont résidé, ceux qui y sont passés et qui ne veulent pas que ce foyer ferme ou voit son budget réduit. Pendant qu'on a les yeux braqués à Paris sur l'action des Don Quichotte et qu'on fait des promesses voilà, qui seront tenues ou pas, aura-t-on la vigilance nécessaire, aura-t-on le sens du suivi indispensable pour que ce genre de promesses se réalisent. En tout cas, pendant ce temps-là, ben, y a des associations et des centres de ce genre-là qui sont menacés en France, qui voient leur budget réduit, tant il est vrai, et tout le monde le sait, les budgets de santé sont réduits, et donc... par voie de conséquence, enfin ensuite, eh bien, ce sont les budgets concernant l'aide aux personnes en difficulté qui se voient réduits à leur tour, et donc ben on se bat aujourd'hui encore à Bourg-en-Bresse en attendant les négociations avec les pouvoirs publics. C'est tout de suite.
Qu'est-ce qu'on dit au
115 ?
Ah merde, je préfère dormir dehors.
Avant j'avais un boulot, mais à 57 ans, pour retrouver le boulot.
Ça fait longtemps que vous êtes venu au phare ?
Oh oui, moi depuis 2001, moi. J'ai resté 6 mois.
Je suis ancien résident. J'ai plongé dans l'alcool, j'avais 13 ans. Je m'en suis sorti, j'avais 37 ans.
Mon mari me tapait et tout. C'est Carole donc, qui m'a accepté, qui m'a dit viens te cacher, tout ça. Je suis bienvenue au phare. Et heureusement qu'on a ce foyer-là.
J'ai demandé un accueil d'urgence. Je me suis présenté.
Qu'est-ce que tu lui dis, Aline, au 115 ?
Moi, j'aurais voulu me marier avec un Français. Mes parents m'ont forcé, ma mère a dit à mon père, marie-la, sinon elle va partir.
J'ai quitté parce que mon propriétaire a vendu tout son corps d'immeuble et les garages à un autre qui voulait casser tout. Donc, quand j'arrivais en fin de bail...
Et je leur en veux. Je leur en veux. Je leur en veux beaucoup.
J'ai touché les ACD, après j'étais en fin de droit et maintenant je suis au RMI. C'est le circuit habituel.
Tu sais comment on fonctionne, tu découvres pas ça d'aujourd'hui.
Là, je déménage tout pour accéder au nouveau logement. C'est tout ce qui me reste de moi-même, ma femme. Il ne reste plus que ça.
Mais tu vas te griller, ici. T'as pas intérêt à te griller ici.
Mon mari, c'est la maladie. Avant, il était routier international et par les heures qu'il a cumulées, ben, il a fait de la petite déprime qui s'est tournée en catastrophe.
Bonne nuit.
Et moi, ma vie, elle a été foutue comme ça. Tous mes droits sont perdus. C'est ça, mon histoire. Mon histoire, c'est ça.
Salut, c'est Daniel Mermel, ah ben si j'y suis avec François Ruffin. Il faut sauver Osé.
Flight number 2, arriving from...
Vous avez vu l'évolution de Neuilly ?
Ah oui, tout à fait. Ça a changé, pas changé. Mais heureusement, maintenant, les quelques hôtels particuliers qui restent sont protégés. Ils ont construit des immeubles qui sont pas trop mal. Il y a encore de la verdure, il y a encore des écoles, des églises. Enfin, c'est quand même une qualité de vie assez extraordinaire. Il y a des chats, des chiens, des enfants.
Pas beaucoup de pauvres. Il y a le chien qui monte sur l'épaule, là, pendant ce temps-là.
Non, on en a eu quelques-uns qui étaient très, très connus à l'époque. Enfin, sans plus les mêmes. Maintenant, ce sont des gens qu'on nous débarque en Mercedes le matin avec un McDo et vous savez qu'ils sont à genoux sur un coussin avec un carton. Veux 3 francs pour vivre, j'ai pas de maison. Autrefois, nous avions nos clochards. Nous avions Alfred qui habitait, je sais pas où, enfin, je sais pas très bien où, mais enfin, qui était aimé, habillé, nourri par les gens du quartier, qui promenait sa poussette. C'était un personnage. Après, on en a eu un autre qui, malheureusement, a été un jour. Arrosé d'essence et je ne sais plus de son nom, il habitait sous l'église du duc d'Orléans, c'est Place des Ternes. Il avait 2 chiens et un jour, ses copains l'ont arrosé d'essence et ont mis le feu, voilà. Il était très gentil, je ne sais plus de son nom d'ailleurs. Enfin, il y avait des personnages comme ça, mais comme il y en a eu toujours, comme il y avait autrefois. Nous avions pas très loin d'ici d'ailleurs, c'était drôle, la maison des vieux de Nanterre. Vous n'avez pas connu ça, vous êtes trop jeune. Il y avait une maison pour les personnes seules, On a plus ça à la maison des petits vieux, à Nanterre. Il y en avait, une centaine. Ils étaient tous habillés pareil. C'est pour ça que ça, je pense, a été supprimé, parce que c'était mal perçu. Mais ces gens-là n'étaient pas seuls, étaient pris en charge. Et alors, ils venaient dans Neuilly, ils venaient partout, j'imagine, pour mendier. Enfin, c'est pas vraiment mendier, ils avaient leur vie. Puis, de temps en temps, ils allaient faire un stage là-bas, on les lavait, on s'en occupait. Puis, ils revenaient avec leurs poussettes, leurs trucs. Ils réintégraient les bancs publics, etc. C'était des personnages qu'on connaissait bien. Il n'y en a plus. Hein. Mais c'est pire maintenant, je crois, parce que ceux qu'on voit sont vraiment des épaves, des gens qui venus d'ailleurs, qui ne sont pas forcément... C'est pas la même chose. On n'a plus nos clochards. C'est horrible de dire ça, mais c'est un peu vrai.
Tu t'es servi, Karine?
Moi aussi. Vous allez vous resservir parce que ça va être tout froid. Non,
moi, c'est bon.
Allez, debout, debout, et oui, 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 et oui, et oui, il faut se lever. Vous avez rêvé, vous étiez dans un rêve. Vous avez rêvé que vous étiez à Neuilly. Et oui, la dame qui parlait, c'est une dame de Neuilly, mais bien sûr que vous connaissez Neuilly-sur-Seine, le pays de Nicolas Sarkozy, notre futur président. Le pays de Nicolas et de ses amis les people, ses amis les artistes, les écrivains, les grands journalistes qui lui donnent un bon coup de main en ce moment. Eh bien oui, vous avez rêvé, bien sûr, que vous étiez dans ce beau monde, dans cette Olympe sur Terre qui est Neuilly, mais manque de chance, eh bien là, pas du tout. Vous n'y êtes pas du tout. Vous êtes dans ce foyer, ce CHRS qui s'appelle le Phare, foyer d'accueil et de réinsertion à Bourg-en-Bresse. Et il faut se lever. Vous êtes un peu en galère, plus ou moins en galère. Vous êtes un peu cassé, un tout petit peu, juste comme ça, quelques jours, ou bien un peu plus cassé. Eh bien, dans ce centre, eh ben, on s'occupe de vous. Vous êtes... voilà, le chômage, les histoires de logement, les histoires de violence conjugale, les histoires aussi d'exil politique ou d'exil économique aussi, ou bien vous êtes sortant de prison, ou bien vous sortez d'un hôpital psychiatrique, ça c'est possible aussi. Vous êtes en rupture, vous êtes en mal de vivre, et vous faites partie de ceux qui passent dans l'un de ces centres. Chaque année, il y en a beaucoup en France, au total 700. 700 à travers la France, pas tous aussi importants que celui de Bourg-en-Bresse où nous sommes aujourd'hui. Pourquoi nous y sommes aujourd'hui, je l'ai dit en commençant, c'est que cette association qui s'appelle Oser comme Objectif Solidarité et Réinsertion, une association qui est là depuis bientôt 30 ans et qui fait du bon boulot, eh bien, ils se trouvent, mais avec leur façon de faire, ils ont leur façon de faire, ils ne veulent pas trop toujours systématiquement se plier à la ligne de conduite qu'essayent de leur imposer les pouvoirs publics, mais c'est pas facile parce que c'est les pouvoirs publics qui sont aussi les bailleurs de fonds. Alors ils sont un peu réfractaires, ils ont leur conception à eux du soutien et de l'aide et de l'insertion et de l'accompagnement, bien évidemment. Alors c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui, et il faut bien le dire aussi, ceux qui de plus en plus nombreux dans notre beau et riche pays passe par ses foyers. C'est jusqu'à 16h. C'est là-bas, si j'y suis, sur France Inter. Il faut sauver Oser.
Prostitue. Jette un œil sur terre par-dessus les nuages. Tu verras qu'il y en a bien du monde qui loge chez Monsieur Chagrin, ou chez Dame Misère, et qu'il y a bien que chaise qu'on partage le malheur, la maladie et la faim. Le mauvais sort s'acharne de la sorte, c'est un drame. Ne pourrait-on faire quelque chose, me demandait Marie-Charlotte. Allons, soyez pas sottes, ce n'est tout de même pas de notre faute si le malheur des autres fait le bonheur de ceux auxquels il rapporte. Et puis ma chère, vivre riche et bien heureux, c'est peut-être déjà bien, c'est certain. Mais sans un parterre de bougres et de malheureux, oh, ça n'aurait goût à rien. Oh, sans vous les tristes bougres, sans vous les humbles gens, sans vous les malheureux, les malchanceux, les mal lotis, vraiment que serions-nous, nous les bien portants, les gagnants du loto, nous les élus, nous les vernis. Sans vous, on ne pourrait pas faire preuve de pitié, pas faire œuvre de charité, et pas faire passer nos repas. Quand on vous donne un sou, vous ne savez pas comme c'est doux. Tout chaud à l'intérieur, tout sucre, on sent tout de suite meilleur. On est à deux doigts de l'implosion sociale, monsieur le directeur général. Allons mon cher, cessez de dramatiser, investissez dans la pauvreté. Voilà monsieur dame, un crédit à 60% étalé sur 210 ans. Une fois encore, à la dernière seconde, les pauvres auront sauvé le monde. Quel monde, quel monde.
Bonjour.
Oh là là, ton pied de bonheur est déjà sans un
petit café pour la route.
Ça va?
T'as dormi?
Oui,
oui, si, ça va. Tu prends quoi le matin? Du cacao? Du café au lait?
Bonjour, Dani.
Des croissants, des brioches? Faut que je fasse des tartines? D'accord, mais pas vrai le matin, parce que quand on prend des jeunes. Toi, t'es pas un vieux de la vieille?
Non.
Tu connais le foot?
Et les éducateurs?
Et les éducateurs?
Pas certain.
Vous avez passé une bonne nuit, monsieur?
Non, moi toujours.
Et le bruit des trains, vous y êtes habitué, là?
Ah oui, oui, je suis né dans un dépôt vapeur à Nancy. Mon père était à la SNCF. Alors les trains, je connais. Je viens de Chambéry, il n'y avait pas de structure d'accueil comme ici. Il n'y a rien sur Chambéry. Il y a beaucoup d'étudiants sur Chambéry et de touristes qui préfèrent louer à des étudiants ou à des touristes. Il y a un petit accueil de jour, c'est tout. Ça craint beaucoup plus qu'ici. Rouvrir le matin à 7h, il était comme hiver, quoi. On ne garde pas ici toute la journée. Donc il fallait bien que je trouve une solution, j'en avais marre de payer l'hôtel. J'ai téléphoné, bon, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Avant j'avais un boulot, mais à 57 ans, pour retrouver du boulot. Le dernier boulot que j'ai fait, c'était à l'hôpital gériatrique de Lyon. Je m'occupais de réapprovisionner les services auprès des fournisseurs extérieurs, des trucs comme ça. J'avais commencé par un CES et ça s'était transformé en CDI. Mais ils ne pouvaient pas me garder en CDI. Pour les questions budgétaires, simplement. J'en tire au maximum sur la ficelle pour me garder. Mais...
Donc suite à ça, vous avez touché les acédiques
puis... J'ai touché les acédiques, après j'étais en fin de droit et maintenant je suis au RMI. C'est le circuit habituel.
Et là, vous faites quoi de vos journées, alors?
Ah ben là, je suis occupé. Je fais d'abord du bénévolat au niveau du secours populaire. Je recherche quand même du boulot. Même si les acédiques... ils m'ont écrit comme quoi ils pouvaient me dispenser une recherche d'emploi, vu mon âge. Et là, je vais entamer une formation de remise à niveau comptable, au niveau du Greta. Et j'ai Tremplin qui va m'embaucher le 1er février pour un boulot, un contrat d'avenir.
Un contrat d'avenir?
Oui, ils appellent ça contrat d'avenir. C'est ce qui a remplacé plus ou moins les CES, si vous voulez. Un jeune de 57 ans comme moi, c'est assez paradoxal. Bon, enfin... Non, moi, mon avenir, c'est le milieu associatif, de toute façon. Le bénévolat, c'est bien, mais ça nourrit pas son homme. Mais ça m'aide, bon, alors, sur le plan moral, ça m'aide. Et j'ai un DUT de gestion. Et j'ai fait mon armée en Allemagne, et quand je suis sorti de l'armée, on était déjà en 75, et ça commençait la crise.
Et Vous avez trouvé quand même ou...
Je suis rentré à la SNCF à l'époque. J'ai été obligé au bout de 10 ans de quitter pour des raisons personnelles et familiales à l'époque. J'étais agent de maîtrise. Il fallait que je m'occupe de quelqu'un qui était gravement malade. Et j'ai commencé par prendre une année sabbatique et après ça s'est prolongé. Et voilà. Je ne pouvais pas me garder mon poste éternellement. J'étais chef de bureau administratif à Dax. Donc,
Je vais vous laisser terminer votre café.
Mais bon, attends, on va se préparer. Hein. On va aller à la préfecture.
Et vous, qu'est-ce que vous en pensez là, de...
Ah ben moi, je suis solidaire avec le mouvement. Hein. C'est inadmissible qu'ils ferment une structure comme ici. Il faut que ça fonctionne 24 heures sur 24. Or, d'après la DAS, ils voudraient fermer durant la journée. C'est plus la réinsertion, ça. C'est du gardiennage, ça, à la limite. Il n'y a pas besoin d'éducateur, là. Mettre des gardes-chum à la place, c'est aussi bien. Le lit d'insertion n'existera plus. Parce que là, on a quand même des rapports privilégiés avec l'équipe éducative. Hein, donc, si on a un problème, on a toujours quelqu'un à qui on peut parler.
Donc, vous allez aller à la manifestation?
Ah, oui. C'est pas la première que je ferai avec eux, ce ne sera pas la dernière, donc... Je suis solidaire avec eux. Hein. Je mettrai en pratique mes idées. Quoi. Bon, moi, je suis à gauche, mais Ségolène, on ne l'entend pas tellement parler là-dessus. Hein. Je préfère aller se balader en Chine, c'est son droit, mais enfin... Peut-être qu'il y a des problèmes plus urgents en France que d'aller se balader sur la muraille de Chine.
Et ben voilà. Ce monsieur vient de poser tout le problème de la réinsertion ou du gardiennage. Bien évidemment que tout s'est cassé de l'existence, chose qui peut arriver à pas mal d'entre nous. Il y a besoin évidemment de soutien, et parfois de soutien long, d'aide pour recouvrer les droits, retrouver un boulot, ou au moins des indemnités, des aides, etc., etc. Il y a ce qu'on appelle l'accompagnement social, et ça se fait, ça peut pas se faire seulement un certain nombre d'heures limitées chaque jour. Alors voilà pourquoi ils se battent, pourquoi un peu partout les associations de réinsertion se battent, et notamment celle-là, c'est une histoire un peu emblématique qui intéresse évidemment bien sûr ceux qui sont les résidents, les passagers de ces endroits, mais évidemment aussi les éducateurs, surtout que cette association de Bourg-en-Bresse a une histoire quand même assez longue que nous raconte François.
Vous êtes en train de gonfler un ballon?
Voilà. Comme ils nous les gonflent, on gonfle des ballons.
Et ça écrit quoi sur le ballon?
Il faut sauver Osé.
Ça va être à lâcher demain, comme ça?
On va les mettre au grill de la préfecture. Tu sais, tu mets une ficelle avec un nœud coulant, tu laisses remonter.
Là, on se trouve face à la voie ferrée, voilà. Donc devant le centre d'accueil d'urgence. C'est ici que vous êtes arrivé il y a plus de 30 ans maintenant?
Non, il n'y a pas plus de 30 ans. Moi, je suis arrivé en 79, donc ça va faire 28 ans. La personne qui avait été embauchée pour faire office de directeur, à l'époque, avait dit, écoutez, moi, je... pas de directeur parce que c'est pas mon truc, donc j'embauche tous mes collègues de travail sur quelques principes qui sont le partage des responsabilités, la non-hiérarchie et surtout, point très important, le partage des salaires. Et donc après, on a inventé un accord d'entreprise, ce qui fait que c'est plus l'égalité parfaite, mais il y a un tassement de la hiérarchie salariale, c'est-à-dire que l'écart entre le plus haut salaire et le plus bas salaire est d'environ 300 euros, si je me souviens bien. Alors que dans un établissement normal, évidemment, la hiérarchie est évidemment beaucoup plus importante. Ça peut être du simple au double, au triple. Quelqu'un, à titre d'exemple, sans formation, qui travaille ici, devrait toucher à peu près entre 1100 et 1200 euros. Avec le système dit de repartage du salaire, il touche environ 1 800 euros.
1 800 ouais.
C'est à peu près le salaire moyen.
Fin des années 70, début des années 80, finalement, les gens qui passent par le foyer, c'est des gens qui vagabondent, mais ils arrivent quand même à trouver systématiquement du boulot à la semaine.
À cette époque, oui. C'est-à-dire, moi, j'ai aussi connu l'époque, ça fait un peu papy, mais c'est vrai que j'ai connu une époque où c'est les agences d'intérim qui téléphonaient au foyer d'accueil pour leur demander s'ils avaient des gens. Là, c'est les gens qui vont dans les boîtes d'intérim et qui donnent comme adresse le foyer d'accueil de réinsertion. En général, on leur dit, vous repasserez. Le gars qui se lève à 8h le matin et qui va faire la tournée des bistrots, et celui qui se lève à 8h du matin et qui va faire les agences d'intérim, quand ils reviennent à midi, en général, le résultat est le même.
Tous les matins, là, demain matin, je vais à la pêche, je vais passer. Obligé, je bois mon café, je mange ma tartine, puis après je pars, au revoir, fume une cigarette. Toujours.
Quand vous étiez, je vous ai vu hier, je vous ai vu aujourd'hui, j'ai même cru que vous étiez résident ici en fait.
Non, non, non. Je suis ancien résident. Je suis arrivé ici le mardi 12 mai 1998. J'ai demandé un accueil d'urgence. Je me suis présenté. J'avais des problèmes avec la justice, problèmes d'alcool, problèmes de dette. Surtout l'alcool qui était très très dur. Je suis arrivé ici, ben, j'avais, c'est bien simple, une valise avec quelques culottes, un pantalon et tout. Et puis dans l'autre sac, j'avais un pack de bière et puis un litre de blanc, un bout de chichon qu'on avait.
Et vous, ils l'ont pas confisqué, les bouteilles de bière et...
On les cachait. Si on les mettait pas à l'intérieur, on les cachait à l'extérieur. Il y avait des haies tout le long, il y avait des haies du chemin de fer en face. Si, ils m'ont attrapé, mais j'ai eu un avertissement une fois, j'ai été mis à pied 3 jours. Je buvais ce que le bon Dieu pour en venir, hein, je buvais. J'arrivais à boire 80 bières par jour. Hein. Ici, à l'extérieur, c'était cuit du matin au soir. Hein. Et il y avait un monsieur, il s'appelait un ancien éducateur qui est plus là, Alain. Il m'a dit, n'est pas pour Marcel, on te soutient et on soutiendra. Et... J'étais beaucoup en maison de soins, des sevrages à l'hôpital, en maison de soins. Ils étaient toujours présents, une lettre, un timbre, toujours des nouvelles. J'ai plongé dans l'alcool, j'avais 13 ans. Je m'en suis sorti, j'avais 37 ans. Grâce à ce soutien qu'ils m'ont apporté, avec eux, j'ai changé ma vie. Ça a changé ma vie. Pour moi, c'est ma famille. C'est pour ça. Dessoudre une équipe aussi vaillante que ça. Maintenant, je ne peux plus travailler parce que bon, les problèmes physiques et tout, ça s'est dégradé. Donc maintenant, je fais ma passion, la pêche. Et dans toutes les galères où j'ai été, ma canne à pêche, elle m'a toujours suivi. Je fais même de temps en temps du poisson aux éducateurs, tout ça. Mes dettes ont été payées. J'ai réussi à passer mon permis parce que bon, j'étais en projet d'insertion.
Donc vous êtes rentré, vous n'aviez pas de permis de voiture, vous n'aviez pas de voiture, vous n'aviez pas de logement, vous aviez des dettes, j'avais et vous étiez alcoolique. Ouais. Et vous en êtes sorti aujourd'hui
J'ai une voiture, je peux voir mes enfants quand je veux, je peux aller à la pêche où je veux.
Et vous levez à quelle heure pour être ici le matin, tôt comme ça?
On m'enlève tôt, je suis tôt. Parce que bon, j'ai mon plaisir à la pêche. Et je me base, quand je me lève, 1h30 avant le lever du soleil. Donc à 5h30, je suis là, je bois l'éducateur, le café, on fait une cigarette, on discute. Et quand ça arrive 45 minutes avant le lever du soleil, là je monte dans ma voiture, je pars, je suis content. Parce que j'ai rencontré pour moi un ami, et puis ça me donne une sorte de motivation pour la pêche, préparation, motivation. C'est pour ça que quand... Si ça change, je ne sais pas comment je vais réagir. Mais je vais y travailler tout seul. Quand je serai au bord de la nature, je vais réfléchir. Mais comme ils sont battants, ils sont tous battants, tous solidaires. Ils sont blessés, mais ils ne sont pas morts, ils ne sont pas enterrés. Parce que les blessures, on peut les penser. Moi, j'ai été blessé. Et vous voyez, je ne suis pas mort. Au contraire, ça, je vis.
Ça va par chez toi. T'as ramassé ce que t'as cassé. Pour cet hiver, ça ira le bois. Et ta plaie s'est-elle effacée? Fais gaffe à pas rester tout seul. Dans ta tête, les nuits sont pas sûres. Si le sol s'effondre, faut que tu gueules. Faut plus que ça pleuve sur ta figure. Il s'est assis à côté de nous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler, rendez-vous. Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. Dehors, t'as vu, ça bastonne sec. Y en a à dire que c'est la vie. Ben on la vivra, pas vrai mec? Ou bien t'as toujours plus d'avis? On se le repartage ce banc. On se le reconque ces étoiles. On se les repulvérise ces moments. On se le retisse ces voiles. Sûr qu'on s'est toujours bien menti. Et pourquoi qu'on changerait maintenant? Cogne-moi le front, mon ami. Si ça claque, on est corps vivant. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse.
Quelques portes et je vous donne la clé pour vos chambres.
J'attends mon contrat et puis je vais essayer de prendre un appartement directement par mes propres moyens parce que passer par eux, personne ne se bouge. Ils disent éducateurs pour nous aider, mais en fait ils servent à rien ici. Ils font juste. Ils dorment ici et puis voilà, ils servent à manger, ils servent à rien. Je vais passer directement par une agence et prendre moi-même mon appartement parce que lui, il bouge pas. Lui, il a des papiers à faire, personne ne veut l'aider. Ancien combattant, il a trahi son pays pour la France et maintenant, il se retrouve dans la merde. Je comprends pas.
Et toi, tu travailles où, là?
Chez Renault. Je veux que ce soit stable et tout. J'en ai marre de courir droite à gauche pour des petits boulots, intérim et tout ça. Maintenant, ils me font une longue mission. Un CDI pour voir l'appartement et tout. J'ai des enfants, alors... Pas grave,
Et ici, alors, comment ça se passe au foyer?
Ben, pour moi, ici, franchement, je dois courir derrière les clés pour ouvrir ma chambre et tout ça, c'est impossible à vivre. C'est infernal, tous les soirs, je rentre à 10h, je suis naze, il faut que je leur cours après, il faut que je mange, nanana. C'est...
T'as pas du tout d'indépendance?
Carrément pas. Carrément pas. Là, je suis sous leurs mains, disons. Ça me va pas, la façon dont c'est. Dont on nous juge, on nous traite. C'est pas humain. C'est pas comme ça que je voyais un foyer de réinsertion. Les gens qui bossent et tout ça, il faut qu'ils se lèvent aux mêmes heures que les autres, ceux qui foutent faim. Après, ils trouvent ça normal de bouger avec eux pour leur grève. Je m'en fous de leur grève. Ils croient que je vais aller devant la préfecture pour manger un sandwich. Ils m'ont pris pour un SDF.
Et toi, t'as besoin de réinsertion ou bien
non, c'est...
Toi, t'as un boulot, t'as des qualifications.
Ouais.
T'as rien à faire non plus dans ce
foyer
de réinsertion.
Ouais, j'ai rien à foutre ici. C'est juste le temps d'avoir un CDI, puis de trouver un appartement, en fait.
Il faut quoi pour avoir un logement maintenant?
Ben, je pense qu'il faut que j'économise au moins 3 mois pour avoir un truc comme je veux, quoi, comme tout le monde.
Non, moi, je suis obligée de partir, mais je vais sûrement revenir ce soir.
Voilà. 2000 euros pour avoir la caution et puis payer le mois suivant et puis acheter 2-3
affaires. Un
de quoi débuter, quoi. Et je suis obligé de passer par là. Bon, je vais me changer. Bon, ben, bonne journée.
Ouais.
Au revoir.
Ah, il n'y a pas que des heureux hein, qui passent dans ce foyer. Ah, ben non. Il n'y a pas que des anges. Et c'est pas toujours la récompense pour les éducateurs qui se prennent pour des tampons. Oui, des tampons, parce qu'ils sont, évidemment, ils ont le cul entre des chaises, ils sont pris entre le marteau et l'enclume. Les pouvoirs publics sont quand même bien contents. Nous sommes aussi, nous, les nantis. Et ceux qui ne sont pas dans la galère, ben, bien contents que d'autres fassent ce boulot-là, quand même, quelque part. Que disent au juste les tampons?
on vous fait un peu jouer le rôle de l'infirmerie ici, c'est-à-dire que bon, il y a des gens qui vont pas bien socialement, on les envoie au phare, penser vaguement les
plaies. Oui, c'est ce qu'on nous demande de faire. Nous, on pense aussi que un travailleur social, c'est un tampon. Hein, c'est-à-dire que ça fait en sorte que les gens qui ont très très mal dans une société, finalement, soient accueillis, un peu écoutés, et puis du coup, ils sont un petit peu faire en sorte qu'ils soient pas trop violents avec ceux finalement qui les exploitent ou en tout cas qui les regardent vivre pauvrement. Donc, on sait qu'on est ce tampon-là, on sait qu'on pense des plaies. Certes, il faut faire ça, mais il faut agir pour que les causes de tout cela puissent un jour éventuellement disparaître. Donc c'est pour ça qu'on a toujours dit, bah oui, quand vous mettez, vous, les gouvernants, des politiques sociales en place, nous, on est sur le terrain, on voit à quoi elles servent, et quand elles ne servent à rien, ou quand elles sont carrément à l'inverse des intérêts des plus pauvres, eh bien, on dénoncera.
Mais quelle politique vous avez dénoncée, par exemple ?
Bah, ça a commencé surtout dans les années 80, avec la kyrielle de nouvelles mesures qui ont été mises en place. Ça a commencé par la plus importante, qui était le RMI. On n'a jamais fait obstacle à l'obtention des droits pour les personnes qui sont ici, c'est-à-dire qu'on a été cellule instructrice des RMI, mais systématiquement on a remis en cause à la fois le montant du RMI qui devait être, à l'époque, avait été annoncé comme étant de 70 ou 75% du SMIC et qui s'est retrouvé à quelque chose comme maintenant c'est 425 euros. Et puis surtout on a dénoncé que le RMI débouchait de toute façon rarement sur un mieux. Les gens qui avaient le RMI, il y en a qui l'ont depuis maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans. De toute façon, I2 insertion, quand vous mettez trois mots sur... C'est une arnaque, vous mettez trois mots sur un contrat d'insertion qui dit ce monsieur va se faire soigner les dents, ce monsieur est en recherche d'un logement, ou ce monsieur ou cette dame est en recherche d'un travail. Vous avez fait votre boulot d'assistant social ou de travailleur social. Il y a une anecdote aussi par rapport au contrat emploi solidarité. La préfecture, à une époque, avait interpellé toutes les associations en disant « Écoutez, ça serait bien si vous aviez des contrats emploi solidarité. » Donc on a dit « Ben nous, ok. » Mais à condition express, puisque c'est prévu dans la loi, que ça débouche sur un véritable emploi et que l'emploi soit pérennisé. Ils ne nous ont jamais réécrit. Et on a effectivement embauché un contrat emploi solidarité à l'époque pour l'hôtel de temps des cerises, qui était sans doute le mieux payé de l'univers, puisqu'on l'avait inclus dans le fameux partage des salaires, et que ça a effectivement débouché, après le CES, sur un emploi à contrat à durée indéterminée dans l'association. On a beaucoup contesté la politique sur les demandeurs d'asile. Au début des années 2000, il y avait un afflux, comme ils disent, de demandeurs d'asile sur le département et notamment sur toute la région Rhône-Alpes, des personnes qui venaient principalement des pays de l'Est. Ils avaient une autorisation provisoire de séjour. Ils avaient la possibilité de déposer un statut auprès de l'OFPRA pour qu'ils examinent et qu'éventuellement ils leur accordent le statut de réfugié. C'est-à-dire que ces personnes avaient le droit d'être là. Il n'y avait rien qui était prévu pour leur prise en charge en termes d'hébergement et aucun droit, évidemment, au travail. Et ces personnes se sont agglutinées autour du seul centre qui était ouvert 24 heures sur 24 dans l'Ain, qui est le département. Et là, on a commencé ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire on a alerté la presse, on a fait l'Assemblée Générale, on a transformé le réfectoire, là que vous voyez, en dortoir, on a transformé le cabinet médical en chambre. Et puis quand ça n'a pas suffi, on a décidé avec nos amis de Droit au Logement, comme il y avait pas mal d'appartements libres sur le département, on a décidé de faire des réquisitions. On nous fait payer ça.
Ça, c'est mal vu aussi. Mais il y a 10 ans, quand on allait dans les réunions partenariales où il y avait la DAS, ils disaient « Oui, mais vous les défendez trop, vous les défendez trop. » Alors, ils n'osent plus dire ça comme ça. Mais c'est toujours pareil, quoi. C'est-à-dire, pourquoi vous êtes de ce côté-là, quoi ? Il faut discuter. Et quand on discute d'eux. On ne discute pas avec eux.
Et on ouvre la porte. Attendez.
Vas-y, on rentre. Vous voulez boire un café ?
Le café, faut que j'en fasse, hein.
Ouais.
Vous transportez quoi ? Une baffe de...
Tout ce qui est informatique. Là, je déménage tout pour accéder au nouveau logement. C'est tout ce qui me reste de moi-même, ma femme. Il ne reste plus que ça. Une commode et de l'informatique, c'est tout. On n'a rien d'autre.
Mais ça fait combien de temps que vous êtes dans le temporaire alors ?
2 ans. On connaissait des gens, oui, ils disaient venez, venez, vous payez une petite pension, chez nous ça se passera bien. On versait une pension, 15 jours après terminé, quoi, dehors. Il n'y a pas de honte.
On aurait 20 ans, ça ne serait pas pareil. À 47 ans, ça fait tout drôle d'être en bas de l'échelle, alors qu'avant on avait tout le temps des. Moi j'avais tout le temps de bonnes situations quand même.
C'est-à-dire qu'est-ce que vous aviez comme situation ?
Avant j'étais vendeuse responsable, j'ai travaillé en usine, j'ai jamais été en galère comme ça. C'est la première fois que je suis vraiment en bas. À la fin du mois, j'avais quand même 1100 euros dans ma poche et maintenant ben, je suis à zéro. Mon patron m'a licenciée alors que je venais d'être opérée, j'étais encore en arrêt de maladie. Et 2 jours avant, j'étais licenciée abusivement. Vu que ma mère était atteinte d'un cancer aggravé, que j'ai même pas pu déposer mon dossier de prud'homme. J'ai pas eu le temps de finir mon dossier. Et ben, pour mon mari, c'est la maladie. Avant, il était routier international et par les heures qu'il a cumulées, ben, il a fait de la petite déprime qui s'est tournée en catastrophe.
Oui, j'étais routier international. Espagne, le Portugal, l'Angleterre, l'Allemagne, tout épidesque, quoi. Il s'est avéré que je commençais à avoir des hallucinations. Donc il m'est arrivé quasiment tous les 10 minutes. Hein. Je m'arrêtais avec l'ensemble, pensant qu'il y avait quelqu'un dans la cabine. Il n'y avait personne. Ça a commencé là. Et à la longue, donc j'ai vu un médecin qui m'a dit, écoute, tu te repousses 15 jours, après tu iras toute cette rattaque. 15 jours après, c'était un prolongement d'un mois, et ça fait 15 ans. Et là, je suis arrêté sur 2020.
C'est parce que vous travailliez trop à l'époque ou...
Je dormais très peu, je roulais du lundi au dimanche. Lorsque c'était férié dans un pays, oui, je quittais le pays, j'allais dans un autre où c'était pas férié, et puis ainsi de suite. Je jonglais comme ça pendant des années. Et donc, j'ai encaissé, et puis...
Et pourquoi vous travaillez autant ? C'est le patron qui vous le demandait ou c'était vous qui vouliez travailler autant ?
Le patron. C'était le patron. Ce qui se passait, je touchais quand même que 6 000 francs par mois, seulement. D'instant que j'avais un salaire, c'était l'essentiel. Les 6 000 francs, c'est l'exploitation, quoi. Moi, je rentrais 3-4 fois dans l'année, hein, je rentrais pas plus.
Vous rentriez 3-4 fois dans l'année ?
Je rentrais peut-être à 3-4 week-ends par an, à peu près.
Mais vous n'aviez pas de famille, alors ?
Non. J'étais tout seul. Et quand j'ai connu ma femme en 92, de là a commencé la dépression. Voilà, dépression, dépression, dépression. Et voilà le résultat. Lorsqu'on dit que le travail, c'est la santé, je voudrais bien. Voilà. Alors moi, je me suis soigné par les nerfs. Ma femme est revenue. Nous sommes dans un foyer.
Si je tombais dans la misère, dit fréquemment monsieur le baron, il y a presque des jours où je l'espère. Les gens du monde me comprendront. J'aurai enfin la vie rêvée que connaissent les pauvres gens, débarrassés de la corvée et des éternels soucis d'argent. La fortune est un esclavage. Il ne faut pas vous y tromper. Il faut beaucoup plus de courage pour vivre riche que ruiné. Dire que les ouvriers se plaignent, on se demande bien de quoi. Pour loger à la même enseigne, je donnerais n'importe quoi. Gérer sa fortune soi-même est un calvaire de chaque instant. Sans parler de la vie qu'on mène, malgré soi la plupart du temps. Les dîners chez Maxime m'écœurent. Mon foie ne les supporte plus. Les pommes de terre à l'eau sans beurre sont préférables à ces abus. Les ouvriers qui nous critiquent ne connaissent absolument pas. Quels bourreaux sont nos domestiques ? Eux ne les supporteraient pas. Ce sont tous des gens qui nous volent, qui ne nous créent que des soucis. Et il y faut une patience folle. Ils sont tous mauvais par ici. Si je tombais dans la misère, je remercierais le Seigneur de me donner ce que j'espère. Car les pauvres gens ont du cœur. Je ne les connais que par ouï dire, mais il paraît qu'ils sont très bien. S'ils imaginaient mon martyr, ils ne m'envieraient plus de rien. Ils savourent 6 jours par semaine le plaisir du travail bien fait. Ils mangent très peu, gagnent à peine, mais ils s'en contentent. Et je sais, je le tiens d'amis très intimes, qu'avec 300 000 francs par mois, un ouvrier peut fort bien vivre et dire encore du mal de moi.
Moi, je suis derrière la police là, devant le. Non, je suis devant la porte de la préfecture là, devant la grille. Ouais. À tout de suite.
C'est pas très intéressant, c'est ma femme qui me téléphone, elle est en face.
On souhaite la nouvelle année avec le préfet. Est-ce qu'il souhaite ses bons voeux, mais nous on est en face avec les tentes quoi qu'on a montées cet après-midi. À mon avis, l'année commence pas très bien. Peut-être bien pour certaines personnes, mais pour d'autres, je pense qu'elle commence pas très bien.
Et entre les mains, vous avez quoi?
C'est un drap qui résume un peu la situation et on le distribue aux gens qui rentrent pour les vœux qui sont. Merci. C'est vrai? Ah, bon, non, bah, vous me montrez pas. On a mis des ballons, alors c'est très joli, alors on ne sait pas si ça va s'envoler, mais c'est des ballons gonflés à l'hélium qui font une espèce de... C'est assez carnavalesque, en fait. Bon, pas les slogans, la misère c'est toute l'année, c'est pas tellement carnaval, ça. Quoi d'autre? Il y a un casse-croûte chaud qui va arriver, là, monsieur. Merci.
Alors voilà, ben oui, vous avez entendu Michel Simon, ce poème, je crois que c'est de Bernard Dimet, ce texte sur la misère, si je tombais dans la misère, ben voilà, on est avec ceux qui sont tombés plus ou moins durablement, et on est dans ce square Joubert à Bourg-en-Bresse, en ce moment, hein, ils investissent le square face à la préfecture, qui investit ce square, et bien ce sont les travailleurs sociaux de ce centre OSER. OSER les résidents, ceux qui résident dans ce foyer. Alors, il faut savoir que il y a le phare, le foyer d'accueil et de réinsertion. Il y a également un service d'accueil d'urgence pour des familles en mobilhome, et puis il y a aussi un hôtel d'accueil qui s'appelle le Temps des Cerises et qui est de 23 chambres. Alors, tout ça, ça représente un budget de 1 million 10 000 euros pour le tout. C'est-à-dire pour le phare, hein, c'est-à-dire 62 places, 24 heures sur 24. Et là, les pouvoirs publics entendent réduire ce budget, et l'écart est d'environ 200 000 euros. Bon, voilà, c'est là-dessus que ça discute. J'ai un autre petit document où on m'indique les revenus de M. Bernard Arnault, par exemple. Eh bien, c'est 12,9 millions d'euros chaque année, sans doute sans compter les stock options. M. Antoine Zacharias de Vinci, presque autant, etc. Vous connaissez les super revenus de ces super patrons. On peut dire vraiment que on vit dans un monde de deux contrastes. Voilà pourquoi ils sont dans ce square, voilà pourquoi ils se battent, mais pas seulement au fond, parce que ils entendent se battre aussi pour essayer, non pas seulement d'être des gestionnaires, non pas seulement de gérer cette misère humaine, mais de l'accompagner, de faire de la véritable réinsertion, qui effectivement demande du temps, de la patience, de la compétence, et pas tant d'argent que ça, puisque tout compte fait, disent-ils, pour 116 personnes prises en charge de façon permanente, ça coûte 28 euros par personne et par jour, ce qui comporte l'hébergement et la nourriture à peu près en demi-pension. Donc 28 euros par jour, c'est quand même pas des sommes astronomiques. On voit bien que derrière ça, il y a des affaires de fond. On est bien obligé d'aller sur le fond et sur des conceptions, tout simplement, des philosophies, des idéologies et des applications politiques. Veut-on réinsérer ou veut-on gérer en mettant à distance? C'est vraiment deux conceptions complètement différentes de ce qu'est une humanité. J'ai envie, une fois de plus, de répéter la phrase fameuse la petite expression à laquelle je tiens beaucoup, 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 de Robert Antelme, qui est de dire « le monde, c'est tout le monde ». Alors, on est devant cette préfecture avec tous, ils sont tous là. Et il y a par exemple Catherine, qui est une résidente, qui est venue soutenir cette lutte.
Bonjour, vous êtes arrivé, c'est lui qui vous a accueilli.
Oui, c'est lui qui m'a accueilli. Ça va bientôt faire 6 ans. J'ai eu le 8 novembre 6 ans. Bah, à l'époque, tu étais avec ton ex-mari, hein, voilà, vous êtes allé en couple. Oui. Voilà, bon, c'était un accueil comme plein d'autres, hein, à la porte. Ils n'avaient plus aucune solution, ils sont arrivés un petit peu comme ça. Voilà. Une chance, on avait de la place. Et depuis, eh ben, Catherine a fait son bonhomme de chemin. Ouais. Elle a un appartement maintenant, tout, voilà, elle prend ses enfants, voilà, ça se passe bien.
Et jusqu'à présent, les jours où je suis en déprime quand on m'enlève ma fille parce que j'ai eu des malaises, ils viennent, je vais vers eux, je leur dis je peux rester un peu avec vous, j'ai le cafard, et on discute, on fait des parties de Scrabble avec les résidents, avec les éducateurs. On fait des tas de jeux, la cuisine, voilà, oui, de tout. À voir, c'est eux.
Chez nous, nous voir, on est toujours là pour lui répondre, la nuit, le jour, oui. Voilà.
C'est vrai qu'au début, j'avais des difficultés à m'adresser aux éducateurs hommes, parce que...
On regarde les questions, là.
Parce que, comme j'avais des graves problèmes avec mon père, j'allais souvent... voir les femmes, les éducateurs femmes. Dès qu'il y a un homme, moi je me reste dans la chambre, je bouge plus. Dès qu'il y a une femme, je vais lui faire pour les papiers et tout. Et un jour, Christian est venu me voir, il me dit moi je peux t'aider à faire des papiers. Bon, ben, j'ai dit on y va. Et comme j'ai vu que ça s'est bien passé, j'ai dit bon ben ça va, y a pas, c'est pas comme mon père, c'est pas comme. J'ai connu d'autres foyers en Haute-Savoie. Et franchement, c'est la nuit et le jour entre le phare et eux. Hein. C'est vraiment... C'est pour ça que je n'ai pas quitté l'Ain. Sinon, il y a longtemps que j'aurais pas arrêté de l'Ain.
Vous devez rester à Bourg pour le phare.
Oui, parce qu'à part eux, je n'ai plus de famille, j'ai plus personne qui s'occupe de moi, j'ai plus mes parents, j'ai plus personne. Et quand je viens les voir, comme si je vais retrouver ma famille. Et ça fait mal au cœur de les voir... ici, de demander pour aider les gens qui le font bien, pourquoi ils vont fermer le phare et voilà. Au foyer dans la Haute-Savoie, ils nous accueillis, bon, plus ou moins en faisant la gueule, comme si ils étaient obligés de nous porter sur leur dos. Et là, l'accueil, c'était avec un sourire, comme vous le voyez, le sourire. J'allais voir l'éducateur et l'éducatrice surtout, parce que ce temps-là, j'étais pas encore bien avec les éducateurs. Elle me disait, ben, on est là pour vous aider, on n'est pas là pour discuter avec vous.
Et vous étiez logé nuit par nuit ou vous étiez logé pour 2 mois, 3 mois, 4 mois?
Non, pour 3 jours. Après, j'allais chez mon ex-belle-mère et j'allais redemander encore 3 jours. Et n'importe quelle situation, ils accueillent 3 jours, pas plus.
Ouais, je vais vous laisser manger votre sandwich. Bon,
c'est surtout mon rendez-vous qu'il faut que je loupe pas mon bus. Là, je repars pour aider le Resto du Cœur. À 4 heures, je viens et je vais dormir avec le phare ici.
Voilà, merci à tous. Merci à Catherine, Kyria, Marcel, Jean-François, monsieur le préfet Soubelet et tous les éducateurs et résidents du foyer d'urgence de Bourg-en-Bresse. Le site de l'association, c'est OSER, O-S-E-R, OSER, www.oser-lephare.org. Le phare, c'est F-A-R. Je recommence. www.oser-lephare.org si vous voulez les soutenir, et je suis sûr que vous pouvez les soutenir. C'était un reportage de François Ruffin. Toutes les informations sont sur le site de France Inter à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, où très bientôt, je crois que c'est jeudi prochain, on arrivera à la 1000e émission archivée sur ce site créé, je vous le rappelle, par un auditeur. On en reparlera la semaine prochaine à la technique aujourd'hui. Pierre, Yves Deroulin et Benjamin Zagatinet. C'est Yann Chouquet et Raphaël Moutéat qui ont réalisé cette émission, assistée de Charlotte Perry et Christophe Humbert. Attendra tout le week-end à côté du répondeur que vous vouliez bien vous exprimer. Colère, coup de gueule, coup de cœur au 01 56 40 37 37.